en séance. Une retransmission proposée par Canal Academy.
Canal Academy rediffuse toutes les séances de l'Académie des sciences morales et politiques pour l'année 2011. Le président de cette année, Jean Béchler, a initié une nouvelle formule. Au lieu de donner une thématique d'année pour toutes les séances, il a demandé à chacun de ses confrères d'évoquer un sujet sur lequel il travaille ou sur lequel il a tout simplement envie de s'exprimer. Et c'est ainsi que tout au long de l'année 2011, vous pourrez entendre les académiciens de l'Académie des sciences morales et politiques aborder des sujets très divers. Après Rémi Brague sur la légitimité de l'humain, Jean-David Lévit sur la diplomatie, Alain Besançon sur la religion de Flaubert, André Vacheron sur l'euthanasie, Pierre Mazeaud sur l'intérêt général, François Dorcival sur l'élection du président de la République de 1848 à nos jours. Voici maintenant Xavier Darcos sur le thème « Qu'est-ce que l'action culturelle française à l'étranger ?» Entrez avec nous dans la salle des séances et participez à cette communication.
Chacun de vous le sait par expérience, pour l'avoir observé un jour ou l'autre, pour y avoir participé, la France possède un immense réseau culturel, varié, ancien et presque sans équivalent. Et pourtant, si j'en juge par ma propre expérience, il faut reconnaître que se ressent souvent, parmi les acteurs de notre réseau culturel, une forme de lassitude, de doute, d'inquiétude. D'un certain point de vue, cette lassitude est facilement compréhensible. Elle s'explique d'abord par le poids des questions matérielles qui touchent l'ensemble de l'appareil de l'État. Restrictions budgétaires, rationalisation des services, et aussi par le regroupement au sein d'une agence unique, l'Institut français, sur lequel j'aurai à revenir dans la dernière partie de mon exposé. Mais tout laisse à penser aussi que ce sentiment d'abandon est plus profond, comme si la nouvelle donne internationale rendait obsolètes les méthodes de naguère et obligeait à reconsidérer l'ensemble des questions de notre influence à l'étranger. Derrière la lassitude, je crois qu'il faut lire l'incertitude, le besoin de clarifier le sens de l'action culturelle, de lui fixer un cap raisonnable. Car le monde dans lequel se déploient nos réseaux culturels n'est plus du tout celui de ses fondateurs. Nous vivons à l'heure de la diversité infinie des échanges, de l'Internet, des bouquets télévisuels, de l'internationalisation de nos sociétés, de la facilité des déplacements, de même l'instabilité des territoires concernés, prioritairement. Naguère, les pays émergents, l'Afrique francophone, le Maghreb, fragilisent forcément nos stratégies. Nous en avons eu une preuve récemment à propos du pourtour méditerranéen. Il nous faut donc nous interroger et nous demander, dans ce contexte nouveau, quelle mission devons-nous sauvegarder, sur quel projet nos efforts doivent-ils porter, quel but pouvons-nous atteindre ? À cette première question fondamentale s'ajoute aussitôt une seconde. Que faire face à la domination américaine, accentuée par les révolutions technologiques des deux dernières décennies ? Tout homme au monde semble avoir désormais deux cultures, la sienne et l'américaine. Très fortement ressentie dans nos réseaux culturels qui voient un combat de David et Goliath, cette situation oblige à cerner les effets de la mondialisation culturelle. Se traduit-elle seulement par une uniformisation, en fait par une américanisation, ou permet-elle, malgré tout, de préserver les diversités en leur donnant les moyens de se faire connaître dans le monde entier ? Ce débat occupa l'UNESCO, vous vous en souvenez, les pays du tiers-monde s'y engagèrent fortement et finalement, seuls les États-Unis et Israël refusèrent de ratifier la Convention sur la diversité culturelle, mais la France est ici concernée au premier chef. Ces débats, d'ailleurs, ne sont pas théoriques, ils ne cessent de donner lieu à de nombreuses publications. L'une d'entre elles a peut-être attiré votre attention ces jours-ci, je pense au livre récent d'Olivier Poivre-d'Arvor, qui s'appelle « Bug Made in France ou l'histoire d'une capitulation culturelle ». Le sous-titre est étonnant, puisque l'auteur était directeur de Culture France pendant les 10 dernières années, et donc bien placé pour expliquer la politique menée, peut-être moins pour la critiquer. Mais en gros, la France, dit-il, serait incapable de résister à l'américanisation culturelle parce qu'elle est victime d'un nouvel épisode de la querelle des anciens et des modernes. D'un côté, une conception purement muséale de la culture française. De l'autre, la vraie flamme créatrice, sans cesse ravivée par l'invocation incantatoire à l'âge d'or mitterrandien. Il me semble que la réalité est plus subtile et au fond moins politicienne. Il est insensé de vouloir choisir entre le patrimoine et la création, lorsqu'on doit penser globalement à la place de la culture française dans ce monde. 60 millions de visiteurs viennent chaque année en France. Ils y viennent d'abord pour notre rayonnement culturel, pour notre patrimoine. Ils n'ont pas besoin d'être motivés par qui que ce soit. Et le fait que l'art français fasse l'objet de plus d'expositions qu'aucun autre pays dans le monde y est peut-être pour quelque chose. Là est notre rôle. De même, les créateurs, les artistes, les professionnels de la culture agissent internationalement, se rencontrent partout, et ils n'attendent pas forcément tout de nos centres culturels. Mais ils sont heureux qu'un attaché culturel leur ait un jour donné de bons conseils pour débuter dans un pays étranger. C'est aussi là notre rôle. Pour ordonner notre réflexion, il convient d'abord de réfléchir à notre héritage, puis à quelques grands enjeux actuels, et enfin à l'évolution des outils dont notre pays doit disposer. Parlons d'abord de l'héritage. Je commencerai par dire qu'il ne faut pas s'installer dans la nostalgie. La tentation est grande, il faut bien le reconnaître. Marc Fumaroli a magnifiquement évoqué dans ce recueil « Quand l'Europe parlait français », le règne de la France sur les esprits grâce à l'usage généralisé de sa langue parmi les élites du XVIIIe siècle, la pensée inventive, l'esprit de conversation, l'attitude critique ne pouvaient s'exprimer que dans la langue de Voltaire. Au fond, le dessin du grand siècle était incarné par les 40 de l'Académie française, paraissait avoir réussi au siècle des Lumières. La langue française s'était élevée au rang de langue classique de l'Europe, elle était reconnue comme l'équivalent moderne du latin des anciens. Peu de pays ont un tel passé, c'est même sans doute sans égal. Mais je le répète, cette nostalgie est inutile, nuisible même, si elle ne doit pas aider à l'action aujourd'hui. Nous n'en sommes plus à l'époque où venaient étudier ou enseigner à Paris les meilleurs esprits de la planète. Ils prennent d'ailleurs d'autres chemins, les États-Unis, la Chine, Singapour, même si la France reste le 4e pays au niveau mondial pour l'accueil et la formation des élites étrangères, en dépit d'une politique des visas très restrictive dont se plaignent toujours les étrangers dès qu'on les rencontre. Notre influence culturelle n'est plus assurée par l'essaimage de nos grands intellectuels, autrefois réclamés par les cours étrangères, Diderot en Russie auprès de Catherine II, Voltaire à la cour de Prusse, conseiller de Frédéric II. Nous ne créons plus de chaires universitaires dominantes dans les grands pays, comme le Brésil, qui accueillit en 1945 Roger Caillois ou Claude Lévi-Strauss. Certes, nous prenons pied dans les pays du Golfe, comme le montre la Sorbonne à Abu Dhabi. Jean-Robert Pitt en sait quelque chose. Mais nous reculons sensiblement en Afrique. Je ne dis pas que nos écrivains et penseurs soient ignorés, surtout dans le domaine des sciences humaines, ni que nos artistes ne voyagent plus, notamment nos architectes. De même, nous rencontrons encore à travers le monde des personnes qui vouent à la France une profonde reconnaissance parce qu'un moment décisif de leur vie, une bourse d'études ou l'invitation d'un centre culturel a déterminé leur carrière. Mais il est devenu de moins en moins fréquent, chacun d'entre nous peut se rendre compte au cours de ses voyages, que les élites étrangères aient une connaissance approfondie de la langue, de la culture ou du savoir-vivre français. Elles trouvent même parfois notre prétention universaliste arrogante. Deuxième point, outre le refus de la nostalgie, il faut revenir un peu sur l'histoire de nos diplomaties culturelles. C'est d'abord un aspect essentiel de l'action culturelle de la France et c'est donc une diplomatie qui a une longue histoire. Elle s'est développée dès le XIXe siècle, d'abord comme un moyen d'influence, fondé sur notre langue, sur les écoles, sur les coopérations universitaires. Mais les centres culturels furent d'abord des antennes d'universités françaises. Grenoble à Prague et Milan, Toulouse à Barcelone, Bordeaux à Oran ou Bristol. Et ces antennes prirent communément le nom d'instituts parce qu'elles y organisaient des conférences, des cours, notamment de littérature et de civilisation française. À cette première génération, je pense à l'Institut de Florence, né en 1908, à celui de Londres en 1910, à celui de Lisbonne en 1928, à celui de Stockholm en 1937, à cette première génération s'ajoutèrent, après la libération, des instituts de seconde génération, principalement au Moyen-Orient, Beyrouth, Téhéran, en Afrique et en Europe, en Allemagne notamment. Une puissante direction générale des relations culturelles remplaçant en 1945 le modeste service des œuvres françaises à l'étranger, qui datait de 1920. Les premiers postes de conseiller culturel à l'ambassade furent créés en 1949. Ce renouveau fut très fortement secondé par l'Alliance française, fondée en 1883, qui développa fortement son réseau, notamment en Amérique latine, dans les années 1950-1968. Si bien que l'histoire est ainsi faite, la France s'appuie sur une double structure, le réseau des établissements culturels proprement dit, 150 dans 91 pays, et celui des alliances françaises, 1098 établissements dans 138 pays. Par cette action, depuis la Seconde Guerre mondiale, la France a anticipé, comme pour le conjurer, le déclin de son influence. La défense de son rang dans le monde est passée par une politique de promotion et d'exportation massive de la culture française à l'étranger. Il s'agissait bien d'ailleurs d'une forme de compensation. Marc Fumaroli, encore lui, dans un autre essai intitulé « L'État culturel », a montré que ce sursaut s'inscrivait d'abord dans un contexte de défaite. Je cite « Ce fut un rêve d'intellectuel, s'éprenant d'un État fort, image inversée de la Troisième République, jugée abolique et divisée. Ce fut ensuite une compensation officielle à la défaite de 1940, puis à la retraite de l'Empire, et un rempart fictif contre la contagion des mœurs et des loisirs américains. » Fin de citation. Non seulement les Français ont compris très tôt que l'influence de la France se mesurait à l'image qu'elle projette, mais ils en ont tiré les conséquences au XXe siècle. Ils ont tiré les conséquences de l'évolution de cette image. C'est aussi ce que nous devons faire aujourd'hui et comprendre avec modestie comment le reste du monde nous regarde. Pas de nostalgie, le poids de l'histoire, mais l'actualité, où en est de l'image de la culture française ? En 1995, notre confrère Jean-David Lévite, qui était alors directeur général des relations culturelles, scientifiques et techniques, futur DGCID, dressait un bilan sévère de l'action culturelle extérieure. Je le cite. « L'image de la France à travers le monde, il faut en être conscient, tend à vieillir. Tout se passe comme si, vu de New York ou de Tokyo, la peinture française s'était arrêtée aux impressionnistes, la musique à Debussy et Ravel, la littérature et la philosophie à Camus et Sartre, et la science à Pasteur. » Fin de citation. Peut-être faut-il lier ce diagnostic à la crise profonde que traverse aujourd'hui notre pays et sa culture. L'esprit de conquête s'efface, il a dominé les décennies glorieuses de l'après-guerre au cours desquelles la France a changé de visage, il a accompagné l'immense transformation qui a caractérisé ces années de prospérité et de progrès, et le monde regardait la vitrine culturelle française d'une France victorieuse, d'une France entreprenante. Ces grandes figures intellectuelles étaient également celles de l'Occident, voire du monde. Mais aujourd'hui, la France elle-même n'est-elle pas en proie au doute au sujet de son identité ? Ce doute profite à toutes les minorités, à tel point que les mémoires communautaires paraissent étouffer l'histoire commune. L'image s'est brouillée. Même au sein des autres pays occidentaux, la France a cessé d'exercer son magistère culturel. La langue anglaise s'est imposée, en particulier dans les registres scientifiques, diplomatiques, économiques. Le monde anglo-saxon a capté aussi la culture de masse, en particulier le cinéma. Le danger d'uniformité menace aussi le domaine intellectuel, car si tout le monde pense pareil, qui pense encore ? Et je ne dis rien de l'autodestruction de la pensée officielle en France. Voici donc les enjeux actuels de l'action culturelle française. Essayons d'imaginer maintenant que peuvent être les enjeux pour l'action de demain. D'abord, le désir de France. Il est certain que la nouvelle configuration du monde n'accorde plus à la France le rôle prestigieux de mère des armes et des lois. À cela s'ajoute le fait que la France est vue à travers le monde comme une partie d'un ensemble continental qui s'appelle l'Europe. Un touriste américain ne se rend pas seulement en France, il se rend d'abord en Europe. Un artiste français qui obtient des succès aux États-Unis sera vu de la même façon comme un artiste européen. L'État-nation n'est donc plus l'alpha et l'oméga de la vie culturelle internationale. Même la francophonie n'appartient pas spécifiquement à la France. L'Organisation internationale de la francophonie a sa stratégie propre. Faut-il pour autant, à l'instar de nombreux acteurs ou commentateurs du champ culturel, se contenter de tenir le discours du déclin ? Je ne le crois pas. Je ne crois pas à ce déclin. Il semble bien qu'à travers le monde, il existe encore un fort et spécifique désir de France. On a beaucoup parlé pendant ces 10 dernières années au sein du ministère des Affaires étrangères, en particulier de cette notion de désir de France. à la fois slogan et programme d'action. Il avait été formulé à l'origine en 1999 par Patrick Bloch pour définir une stratégie de coopération culturelle supposée répondre à une attente du monde. La démarche a parfois été jugée prétentieuse, mais n'était pas dénuée de fondement. Désirons-nous rencontrer ce qui nous désire ? Et dans l'affirmative, comment s'y prendre ? D'abord, l'enjeu est celui de la langue. La capacité d'attraction que le français exerce reste grande. Avons-nous encore suffisamment confiance en nous pour le diffuser ? Les 180 millions de francophones nous y invitent. Bien sûr, on s'alarme à juste titre, en voyant la langue française si souvent sacrifiée à la tentation du tout anglais, ou du moins de cette sorte de nouvelle langue qu'on pratique dans les échanges internationaux, y compris dans les institutions européennes. Cependant, en Europe comme ailleurs, personne ne perçoit l'uniformisation linguistique comme un progrès. Face à la menace d'un monolinguisme insipide, la reconnaissance des diversités se ranime partout. Il n'y a pas que la France qui défend sa langue. Dans ce combat, la France a des atouts. Une institution efficace, l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, qui a su prendre en compte les évolutions technologiques et lutter contre la fracture numérique. Un vecteur audiovisuel avec les chaînes TV5 et France 24. Un réseau universitaire très dense, mis en valeur par l'Agence universitaire de la francophonie. Le français est enseigné dans le monde par 900 000 professeurs devant 85 millions d'élèves. La revue Le Français dans le monde a des milliers d'abonnés. Donc, il ne faut pas oublier ce bilan, même s'il ne faut pas s'en contenter. Mais nous devons chercher aujourd'hui quelle place, par exemple, réserver à la littérature par rapport à d'autres formes de création, en rapport avec l'écrit. Comment mieux investir le domaine audiovisuel, notamment le cinéma? Comment défendre la francophonie dans les grands circuits de production dominés par le monde anglo-saxon? Comment nous adapter aux champs nouveaux que constitue le monde virtuel, la planète Internet? Comment protéger nos productions de la googlisation sauvage? Le troisième enjeu, désir de France, enjeu de la langue, le troisième enjeu est donc la stratégie d'exportation dans l'économie mondiale de la culture. Le produit culturel aujourd'hui s'est mondialisé. Les Américains sont les grands bénéficiaires de cette mondialisation culturelle. Mais là encore, nous ne sommes pas dépourvus d'atouts. L'importance économique de la culture est grandissante et les industries culturelles au sens strict du terme, cinéma, musique, édition, tiennent une place croissante dans nos sociétés. On notera d'ailleurs que de nombreux arts dits mineurs s'inscrivent fortement dans ce système industriel et commercial. Je pense à la gastronomie, au vin, cher à Jean-Robert Pitt encore, au luxe, à la parfumerie, à la mode. Et qu'enfin, les beaux-arts, les arts de la scène, la création intellectuelle et tout ce qui relève du stylisme sont incorporés dans de nombreux produits de grande consommation. On voit l'ampleur actuelle et future du marché de la culture française. Le montage d'une nouvelle stratégie d'exportation est un extraordinaire chantier pour les années qui viennent. Il me semble que cette stratégie passe notamment par la coopération. La créativité française actuelle dans tous les domaines, littéraire, théâtral, cinématographique, architectural, est indéniable. Mais en revanche, il est très difficile pour un artiste, un intellectuel, un acteur culturel non initié, de trouver les bons chemins qui mènent au passage des frontières et à la diffusion à l'étranger. Nous savons que les réseaux internes et les connivences professionnelles constituent des freins. Et pourquoi la France doit-elle s'ouvrir à la coproduction, à la coréalisation, à l'élaboration commune, précisément pour cette raison, pour donner la même chance à tous. Devant de pareils enjeux, les moyens dont dispose notre pays doivent évoluer. Peu de pays disposent, nous l'avons dit, d'un réseau culturel comme le nôtre. Mais chacun avait su unifier les États-Unis avec l'USIA, le United States Information Agency, l'Allemagne avec le Goethe-Institut, la Grande-Bretagne avec le British Council. Quant à l'Espagne, elle a créé en 1992 les Instituts Cervantes, dont le nombre demeure encore modeste. Quant à la Chine, dans ce domaine aussi, elle conduit une politique très conquérante avec les instituts Confucius qui désormais s'ouvrent partout. Je signale qu'ils sont déjà deux fois plus nombreux que les instituts français. Notre outil doit donc lui aussi s'adapter de trois façons. La première évolution nécessaire est celle du centre culturel. Actuellement, nos centres ont quatre missions. La première, enseigner le français, ce qui occupe une grande partie des locaux et des personnels. Chaque année, ces centres préparent quelque chose comme 200 000 étudiants étrangers au diplôme de langue française délivré par le ministère français de l'Éducation nationale, mais la tendance est à la baisse, en Europe surtout. La deuxième mission, c'est la diffusion de nos œuvres et la programmation culturelle. Ce fut le rôle de l'Agence française pour l'action artistique, l'AFA, puis de Culture France. Très efficace en Afrique francophone, cette politique permet de lancer des artistes, de créer des échanges durables. C'est plus compliqué dans d'autres continents. Soit la concurrence y est grande, soit, comme en Chine, l'appétence pour découvrir la culture française reste modeste. La troisième mission des centres culturels est de mettre à disposition la documentation sur la France. Les bibliothèques sont de grande qualité, quoique vieillissantes, et elles ont besoin de soutien nouveau pour promouvoir une image plus moderne, mettre en valeur des pôles d'excellence de la France, lutter contre les clichés, contre les idées reçues. Pour cela, les bibliothèques sont appelées à être transformées en médiathèques interconnectées entre elles. Enfin, une dernière mission est la coopération linguistique et éducative. En rappelant ces quatre missions, on voit bien qu'il s'agit aujourd'hui de les élargir. Le centre culturel doit être pensé comme un acteur du tissu local, se transformer en véritable plateforme d'échange et de production, un lieu de rendez-vous ouvert, loin d'une image française donneuse de leçons. D'ores et déjà, beaucoup de centres culturels ont organisé leurs bâtiments pour créer des espaces de rencontre et d'échange avec une cafétéria, une librairie, un espace multimédia, des boutiques de produits français. À Mexico, le centre culturel abrite dans ses locaux une école de mode et une autre de gastronomie. La plupart des centres accueillent également de jeunes artistes en résidence pour quelques semaines. C'est bien là un des objectifs des années à venir, redonner sens et vie à nos centres culturels, en faire des lieux de médiation animés, des foyers de création susceptibles d'attirer les jeunes générations, celles des 18-30 ans. Mais pour atteindre cet objectif, il nous faut tenir compte de la nouvelle géographie culturelle. La seconde évolution de notre outil est donc géographique. La répartition des centres culturels a peu évolué depuis les années 50. Elle révèle un fort déséquilibre. L'Europe, avec 50% des centres, est sans doute trop bien représentée. L'Allemagne compte à elle seule près de la moitié de ses 50% de centres, 19 sur 43, de l'ensemble des centres qui sont répartis dans l'Union européenne. Il fallait certes assurer, après la Seconde Guerre mondiale, une présence française en Allemagne de l'Ouest afin de l'ancrer du côté des démocraties occidentales. Mais enfin, cette géographie culturelle reflète encore les priorités d'hier. L'Afrique du Nord a 10% des centres, mais l'ensemble du continent asiatique, moins de 9%. Quant au continent américain, quasi ignoré, il reste la terre historique des alliances françaises. Ce qui est vrai aussi pour l'Inde, d'ailleurs. En effet, plutôt que d'implanter des centres dans des régions où la France était mal installée, on jugea plus simple et moins onéreux de nouer des partenariats et des conventions d'objectifs avec les alliances françaises. Un redéploiement géographique est donc nécessaire en tenant compte des nouveaux pôles d'influence ou de création, des nouvelles zones de production ou de consommation qui apparaissent. Cela pourra se faire dans le cadre de l'Institut français. La troisième évolution est d'ailleurs cet outil nouveau, l'Institut français. Culture France, l'Agence française pour l'enseignement du français à l'étranger, la UFE, Campus France, UniFrance, qui la holding qui permet la diffusion du cinéma, la holding audiovisuelle externe de la France, l'Agence française pour le développement. Tous ces organismes jouent chacun pour soi. Et cette dispersion devait trouver son terme pour que soit unifié et clarifié le message culturel de la France autour d'un projet stratégique. C'est pourquoi l'Institut français a été créé par la loi du 27 juillet 2010 sur l'action extérieure de la France. Faut-il y voir, comme certains le disent, un bricolage défensif pour gérer l'inexorable déclin d'un vieux pays? Je ne le crois pas. L'Institut français est depuis le 1er janvier l'opérateur unique du ministère des Affaires étrangères européennes pour l'action culturelle extérieure de la France. Il intègre la structure associative Culture France, elle-même issue de la fusion en 2006 de l'AFA, responsable depuis 1922 de l'action culturelle à l'étranger, et de l'ADPF, l'Agence pour le développement de la pensée française. En créant l'Institut français, le gouvernement a souhaité rassembler dans une même agence, ayant un statut d'établissement public, la totalité des activités de l'étranger en matière d'échanges artistiques, de cinéma, de livres, de débats d'idées. L'Institut français assurera aussi la formation des personnels et l'agence sera responsable de la promotion de la langue française à travers des projets concrets développés pour les 140 instituts français à l'étranger et les alliances françaises. Le budget 2011 de l'Institut français est de 43 millions d'euros, soit plus du double de celui de Culture France en 2010. Il dispose d'environ 200 agents issus des ministères des Affaires étrangères, de la Culture, de l'Éducation nationale, et il espère être l'interface où les projets culturels à l'étranger seront facilités. À l'instar de tous les pays à forte tradition culturelle, la France disposera ainsi d'un opérateur unique pour porter ses valeurs de diversité culturelle et de coopération, pour promouvoir sa langue et ses artistes à l'étranger. J'ai bien dit ses valeurs, car la culture n'est pas une fin en soi, elle est porteuse de valeurs, de conception de la gouvernance, de conception des rapports à l'environnement, au temps, à la culture, de l'humanisme. Cette marque unique, l'Institut français, formera une nouvelle enseigne, un réseau d'instituts et d'alliances, si j'ose dire, un institut des instituts. Mes chers confrères, l'action culturelle à l'étranger est bien une réalité en devenir, non un sujet de passé. Il est urgent et même obligatoire d'inventer notre voie, nos méthodes, en gardant à l'esprit cette réalité que un journaliste et intellectuel, Frédéric Martel, a résumée dans un livre intitulé « Mainstream ». À Damas comme à Pékin, à Hue comme à Tokyo, et même à Riyad ou à Caracas, dit Frédéric Martel, j'ai été frappé par la fascination de tous mes interlocuteurs pour le modèle américain de l'entertainment. Les mots sont en hindi ou en mandarin, mais la syntaxe est américaine. Et même ceux qui combattent les États-Unis, en Chine ou dans les pays arabes, le font en imitant le modèle américain. Telles sont les forces des États-Unis qu'aucun autre pays, pas même l'Europe à 27, pas même la Chine avec son 1,3 milliard d'habitants, n'arrive à concurrencer, du moins pour l'instant. En lisant ces lignes, écrite l'an dernier, comment ne pas penser à ce que l'empereur napolitain Caracciolo écrivait en 1777 ? Jadis, tout était romain, aujourd'hui, tout est français. Un siècle plus tard, à la suite de Guizot et de Taine, l'historien Albert Sorel, qui fut membre de l'Académie, écrivait à propos de l'Europe du XVIIIe siècle, « Il y eut une atmosphère européenne, les mêmes idées étaient répandues partout, elles étaient toutes françaises. L'esprit qui anime l'Europe, c'est l'esprit classique, comme il est convenu de l'appeler, la pensée abstraite pour principe, la logique pure pour méthode. » La leçon que je tire de ces trois citations est la suivante. Jadis, tout était romain, puis tout a été français, puis tout est américain. Mais ces prépondérances ne durent pas, parce que notre monde n'aime pas avoir les mêmes idées répandues partout. Et nous, si nous devons promouvoir, dans la mondialisation, des valeurs communes, la politique culturelle de la France du XXIe siècle est même à l'inverse de ce qu'elle fut au XVIIIe siècle. Elle ne promeut pas l'uniformité, elle défend la diversité. Non pas que la diversité soit une fin en soi, mais parce que cette uniformité de culture et d'idées ne saurait devenir notre horizon commun. Je terminerai par un petit détail rassurant avant de répondre à vos questions. Parmi les télégrammes que nous révèle Wikileaks, plusieurs émanent des postes diplomatiques américains. Plusieurs d'entre eux se désolent que la France pénètre des marchés économiques et obtienne des succès industriels en s'abritant, je cite, « derrière le facile paravent de la coopération culturelle ». Cet hommage négatif est une vraie consolation. Je viens de constater que l'échec tardif de l'année du Mexique en France consterne autant le comité des mécènes, composé d'entreprises qui ont des intérêts en Amérique latine, que les artistes eux-mêmes, pourtant affligés. Où notre présence actuelle recule, je pense à l'Afrique ou à l'Amérique du Sud, nos exportations aussi. À défaut de comprendre l'enjeu culturel, chacun saisira bien cette nécessité compétitive. Là encore, avec de nouveaux partenaires, on aurait intérêt à commencer par la culture pour reprendre un mot célèbre du fondateur de l'Europe politique.
Vous venez d'entendre Xavier Darcos sur le thème « Qu'est-ce que l'action culturelle française à l'étranger ?» C'était une séance à l'Académie des sciences morales et politiques, celle du lundi 7 mars 2011.